frappait par ce désir qu'elles exprimaient et qu'il tenait pour sien. Il aimait aussi que l'on pût plonger dans cet univers ténébreux comme la vie et garder l'esprit en paix, que la sérénité fût une condition de la recherche et qu'elle augmentât au fur et à mesure de la descente dans les profondeurs. Il allait, comme chaque fois qu'il voulait réfléchir, revoir l'hôtel l'Allemand de Bourges. Au plafond de la chapelle initiatique, le blanchime du mercure par l'urine lui inspirait de la répulsion, mais l'essor du phénix à l'instant de l'élévation, lorsque le subtil se sépare de l'épais, lui semblait de bon augure. Il y puisait de petites raisons d'espérer. Les abeilles échappées des ruches, c'était son univers, mais la ruche est aussi El Hassan, le vaisseau philosophique. Il se souvenait chaque fois des paroles de Nathanaël de Bussy lui expliquant que le pharaon de la basse Égypte était représenté par une abeille reine, les autres abeilles volant autour suggérant l'idée d'une essence divine et de l'obéissance du peuple. Bussy connaissait un peu l'art royal. Ce plafond est une île qui contient la révélation primitive, une contrée suprême. Il est divisé par quatre cours d'eau dont la source est le jardin d'Eden, avait-il dit. L'amour de Bussy pour les îles, et pour la principale d'entre elles y trouvait son content, comme celui de Grigoriev pour la nature grouillante se satisfaisait de l'image de la corne d'abondance, et surtout de celle de l'angelot scrutateur des secrets de la nature. Cet avant-bras léché par les flammes et qui pourtant ramasse des châtaignes, c'était le sien. La sphère armillaire surmontée d'un phylactère et soumise au feu, le monde visible et invisible qu'il avait parcouru depuis le début. La multiplication en qualité, qui résulte de la séparation du pur et de l'impur à l'aide du mercure philosophique, tout ce à quoi il avait renoncé. La magie agissait dès les premiers pas dans la cour, dès le premier regard sur le fronton de la tourelle, sommé d'une grenade en feu, dès le petit escalier trop étroit où l'énigmatique souffleur gonfle ses poumons. Il en fut de même ce jour-là, où la sculpture du travail des femmes adonnée aux grandes œuvres le fit sourire. Il pouvait ressasser une idée noire des jours durant, appliquer toute sa volonté à la faire disparaître, ne réussissant qu'à lui donner plus de substance, à la transformer en une véritable obsession dont seul un acte violent et absurde pourrait le délivrer. L'idée prenait une vie, un corps, profitant de ce qu'il ne disposait plus comme autrefois des moyens les plus sûrs de la chasser, la marche, le bivouac, l'escarmouche, la pitié pour un camarade mort. Il lui suffit d'une heure passée en conversation muette avec les personnages de pierre. Il en sortit rasséréné. Marie-Antoinette ferait ce qu'elle voudrait. Quel animal était-il? L'époux de la menthe, l'araignée mâle, le crapaud qui ne vit que pour l'amour, l'ours ou l'aigle, qui sont monogames, il s'amusa de ces comparaisons le temps du retour. Augustin avait jadis quitté une femme, et pour la première fois à cette occasion, songé un peu sérieusement à sa propre mort. Il fut long à guérir de cette association. Il avait un ami coureur, malheureux et vif, qui cherchait partout les enchantements de l'enfance dans le plaisir des commencements et s'y épuiserait, un autre que deux passions avaient brûlé, un troisième auquel une femme n'avait pas laissé le temps de vivre et qui, exilé à la campagne depuis 10 ans, feignait de penser à autre chose, et son père qui n'était plus que la moitié de lui-même. Augustin n'était pas loin de craindre l'amour, elle était l'allégresse. Elle portait dans la vie l'allégresse qu'il mettait à son travail, cette énergie joyeuse dont il avait cru qu'elle était une humeur d'hôpital. Elle arrivait chez lui comme il allait à l'hôpital, croyait-il, avec ce mélange d'enthousiasme et de précision qui fait croire que l'univers, celui qu'on voit, qu'on aime, qu'on a choisi, les gens, les rues, les actes à accomplir vous appartient. Et pour durer depuis longtemps, toujours identique, cette sensation devient aussi puissante, aussi irrécusable, que le sont celles de la soif ou du sommeil ou du plaisir. Sans jamais prévenir, elle venait le chercher tôt le matin, dès son arrivée à Bussy, pour le conduire au chevet des églises romanes, et lui apprenait à distinguer le calcaire du grès ferrugineux. Il parcourait à cheval le pays fort et les étangs de la Brenne, remontant parfois jusqu'à Newvy, jusqu'à la Sologne aux sols blancs et gris, aux allées immobiles. Ou bien il se retrouvait à dîner chez l'un ou l'autre, et, isolé dans le bruit et la lumière, reprenait une conversation que l'absence n'avait pas interrompue. semée de rires et d'interjections, elle comportait des mots grossiers, des jugements de salle de garde dont Marie-Antoinette s'amusait beaucoup. Elle n'avait pas l'habitude de cette manière en quelque sorte clinique, et non dépourvue d'ironie, de voir le monde et ses habitants. Augustin ne cédait certes pas à la manie de prononcer des diagnostics en public, mais l'habitude d'en prononcer donnait à ses propos un tour abrupt. On leur devinait un arrière-plan sans couleur, aux formes dures, aux arêtes vives, où les ombres s'étendaient aussi loin qu'aux dernières lueurs du jour. Elle se plaisait à voir ses amis comme des maisons. Augustin lui apparut en bâtiment de Ledoux, un bâtiment blanc et noir d'architecture rigoureuse, un bâtiment utile dont l'esthétique n'épuisait pas la nature, une invitation à agir et en même temps à traverser les apparences. Augustin ne rêvait pas autant, il était ébloui. Le charme, pour lui et pour beaucoup d'autres, ce qui, il était assez lucide pour le savoir, ajoutait à son trouble incomparable, de cet inconnu lui fit abandonner cette réserve qui l'avait obligé à se déclarer la première et qui n'était pas de l'hésitation mais venait de plus loin, de l'honnêteté, de la volonté de ne pas être dupe et de conformer sa vie à ce qu'il avait appris d'elle, qu'elle ne pouvait être, à l'instar de toutes les autres, que solitaire. Dans l'un de ses rares moments d'abandon, son père lui avait dit « Quelqu'un qu'on aime meurt. On est rendu à une solitude de bête sauvage qui est notre essence et que dans les temps ordinaires nous n'avons pas trop de toute la vie pour oublier. » Il était alors très jeune. Avant qu'il ait rien connu, cette phrase avait décidé de sa vie, bien au-delà de ce que son père aurait souhaité, qui sans doute aurait regretté ces paroles prononcées dans un instant d'abandon s'il avait pu soupçonner leur influence. Les exemples et les conseils se fondent, pour la plupart, dans le gris du passé, mais ces phrases de hasard demeurent. Augustin, se demandant pourquoi, bien plus tard, pensa qu'elles demeuraient précisément en raison de leur caractère de phrases de circonstance et que,